On est de Courmaguère pour parler de l'actualité internationale principalement, mais aussi un petit peu française. Je remercie Louise qui, au pied levé, je sais pas, pied levé, ça fait exprès, très danse, ça fait très chorégraphie, tu vois. Bon, qui au pied levé a remplacé Roselyne, qui va arriver et qui est un petit peu en retard et qui s'en est excusé. Et puis je suis content de retrouver Habib, qui, après son long voyage dans les terres parisiennes de, au nord, comme on dit à Marseille. Alors, je vais commencer par parler de la France et de l'histoire des retraites, puisque depuis le début de cette année, c'est le sujet principal pour les citoyens de ce pays et pour l'opinion publique, même internationale, qui regarde de très très près ce qui se passe dans ce qui fut la douce France et qui ne l'est plus tant, pour parler des retraites. Alors, on a passé toute une série d'étapes qui étaient prévisibles entre mardi dernier et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on en est rendu au point aujourd'hui où, formellement, sauf désaccord du Conseil constitutionnel, le projet de loi de réforme des retraites est adopté par le Parlement dans les conditions les plus chaotiques possibles, puisque après avoir accumulé les violations des règles de procédure concernant le travail du Parlement, le travail du Sénat, la commission mixte, enfin, concernant, voilà, toujours au moins à la marge des procédures normales, en utilisant en particulier l'article 47.1 qui n'est pas fait pour ça, clairement, on en est rendu où aujourd'hui il y a une loi qui risque encore de passer devant le Conseil constitutionnel. J'ai pas trop d'illusions sur le Conseil constitutionnel, vu les têtes, les grosses têtes qui l'occupent, je veux parler de Fabius et de Alain Juppé, qui sont pas a priori très favorable à la population, surtout Juppé qui a beaucoup, beaucoup fait de mal au régime de sécurité sociale, donc il n'a pas oublié, donc je ne pense pas qu'il ait changé de conviction. Donc reste petit obstacle qui, à mon avis, est encore un des derniers obstacles possibles dans l'état actuel de la législation française. Il s'en est ajouté un autre qui était prévisible et qui est le suivant, c'est le recours au référendum d'initiative partagée. Alors j'explique en quelques mots de quoi il s'agit. C'est une disposition de la Constitution qui introduit la possibilité pour les citoyens de mettre en cause une loi votée. Donc ça s'applique au cas de la loi sur les retraites votée la semaine dernière, ou plutôt approuvée ce lundi, vu le refus de la motion de censure. Bon, mais donc ce référendum d'initiative partagée est introduit dans la Constitution française par Nicolas Sarkozy. Donc on se dit déjà, qu'est-ce que c'est qu'il a pris d'introduire une procédure référendaire? C'est pas trop le style de la maison, j'allais dire. En fait, c'est une procédure tellement bridée de référendum. C'est l'appel au peuple, en même temps, c'est très bridé. Il faut d'abord qu'il y ait 180, je crois, députés qui demandent à ce que cette procédure soit ouverte. Donc, c'est pas du tout le peuple qui décide « je veux un référendum ». C'est le Parlement qui dit « ah ben, tentez votre chance. Moi, j'ai pas réussi ». Bon, on peut effectivement mettre en cause le vote de la loi sur les retraites. Alors, une fois que le Parlement, enfin l'Assemblée nationale d'abord, a donné son accord avec, je crois, 180 députés, ça c'est fait. Il faut ensuite que s'organise une campagne pour recueillir les signatures. Il faut 10% du corps électoral inscrit pour que le référendum ait lieu. Alors 10% du corps électoral, ça veut dire aujourd'hui 4,8 millions d'électeurs. C'est beaucoup. C'est beaucoup, et on peut dire que c'est impossible à atteindre. Alors, ce n'est pas impossible en ce sens que la Constitution, enfin l'article de la Constitution, donc modèle Sarkozy, qui a été introduit, donc qui est légal, il n'y a pas de souci, prévoit un délai de 9 mois pour recueillir les 4 millions, presque les 5 millions de signatures. Ce n'est pas physiquement impossible. D'abord, il y a le temps, on peut mobiliser la population là-dessus, on peut créer des comités pour la signature et tout. Bon, ça, il y a une possibilité pour que la population qui a été frustrée, puisqu'on lui a fait voter, enfin le Parlement a voté une loi dont la population dans sa grande majorité ne veut pas, donc qu'elle retrouve un moyen d'expression paisible. Il s'agit de signer une demande de tenue de ce référendum et ensuite il faut l'organiser. Le problème avec le référendum d'initiative partagée, donc modèle Sarkozy, c'est que le résultat du référendum, s'il a lieu et s'il est positif, c'est-à-dire que la majorité de la population française refuse la loi Macron sur les retraites, il faut encore que le Parlement soit d'accord pour ce refus. Donc vous voyez que c'est très très bridé. Moi, j'ai jamais été supporter du référendum d'initiative partagée, puisqu'on affiche référendum et on crée tellement de conditions préalables et ensuite savoir si le Parlement approuve le résultat d'un vote que c'est d'une complication extrême et que les chances de réussir ce référendum d'initiative partagée sont très très faibles. C'est pour ça d'ailleurs que Sarkozy l'a inventé. C'était pour dire « Ah, ben moi je suis ouvert, je suis un démocrate, il y a une possibilité de référendum ». C'est pas du tout un vrai référendum populaire, c'est un référendum sur le modèle vénézuélien, j'insiste là-dessus parce que ça existe, c'est-à-dire que dans la constitution nouvelle fabriquée par Chavez et ses équipes au moment où ils sont arrivés au pouvoir, il y a un référendum d'initiative donc populaire, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de signatures à obtenir, mais une fois que ce nombre est obtenu, que les signatures sont là, le référendum est obligatoirement réalisé et son résultat est obligatoirement approuvé par le gouvernement. On est dans des situations donc quasiment opposées, j'allais dire. Un référendum d'initiative partagée, c'est tellement bridé que ça garde des aspects de référendum et en fait, ça n'en est pas un. Enfin, le peuple n'a pas décidé. On lui a permis de s'ébrouer un peu, de s'agiter, de recueillir des signatures. Ceci étant, comme la procédure est lancée, puisque le dépôt, la demande de référendum d'initiative partagée a été faite, dans les formes légales, il faut non pas le minimiser, mais dire c'est encore un moyen, j'insiste, pacifique pour la majorité de la population française qui ne veut pas aller s'affronter au CRS, être en garde à vue, être maltraité par la police nationale, ce qui est en train d'arriver depuis ces derniers jours. Donc cette majorité de population qu'on a trouvée dans les rues, dans les grosses manifestations qui ont eu lieu. Alors, il n'y a pas eu 4 millions de personnes dans les rues, mais quand on était déjà à 2 millions ou 2 millions et demi, il y avait déjà là un courant populaire pacifique, tranquille, qui disait « cette politique ne me convient pas ». Donc si on arrive à doubler le nombre par des voies pacifiques, puisqu'il s'agit ni plus ni moins. Alors imaginez, moi j'ai déjà vu une semblable en Italie où c'est un procédé assez constant, des comités locaux se rassemblent et puis on installe le marché au samedi, le marché on met une table, on fait signer et on dépose ça à la préfecture.
Mais il y a eu 68% des Français qui sont contre.
Voilà, c'est ça. Voilà, on s'appuie sur le résultat des sondages qui était tout à fait clair, plus la participation aux manifestations pacifiques qui était très très importante. Et donc, il n'est pas impossible, mais je veux dire, c'est tout un travail qui a 9 mois pour être fait, pour que les contacts se multiplient entre cette population française majoritairement hostile, puisse s'exprimer à nouveau sans aller s'affronter au CRS et sans risquer de perdre un œil. C'est très très important de garder ça. Maintenant, ensuite, le résultat sera pas, on ne sait pas ce qui sera, mais il ne faut pas que ce soit endormi, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'en n'utilisant pas cette procédure, on dise aux Français ben maintenant c'est perdu, rentrez à la maison, on n'en parle plus. Non, on peut encore faire quelque chose dans des voies légales, tranquilles, pour dire je ne suis pas d'accord. Voilà.
C'est très, est-ce très... que tu peux nous expliquer, par exemple, les censures là ?
Il faut d'abord qu'il y ait des députés qui aient demandé. Ça, c'est fait. Oui. Ça a été fait tout de suite. Ouais. Hein. Et il y avait un nombre minimal. Bon, donc le dépôt, la demande d'organiser un référendum d'initiative partagée, elle est faite, elle a été reçue, elle est valable. Bon. Ensuite, donc, ça ouvre le délai de 9 mois pour... Puisque cette procédure n'est utilisable que contre une loi qui a été votée. De fait, elle a été votée, puisque la motion de censure n'est pas passée. Hein. Donc on est bien tout à fait dans ce cadre légal. Ensuite, on recueille les signatures. On organise, l'État est tenu d'organiser le référendum. Mais... ce que je disais, et c'est là un peu la flèche du part, l'aspect vicieux du truc, le Parlement peut in fine dire qu'il considère les résultats comme pas significatifs. Imaginons qu'il y ait, je ne sais pas, 5 millions de voix pour enlever la loi sur les retraites, on dira, ça, il n'y en a pas assez, et donc on s'assoit dessus, ça n'a pas d'importance. Mais ça ouvre quand même ce délai de 9 mois et cette capacité, cette possibilité de mobiliser un électorat populaire tranquillement, dans la rue, je vous dis, tous les samedis au marché, vous vous mettez avec quelques copains, vous faites signer un texte en expliquant, on veut le retrait de cette loi, c'est très très simple, il n'est pas compliqué à expliquer et tout. On fait ça dans tous les marchés de France pendant 9 mois, pendant l'été, dans les situations touristiques, et on arrive à organiser ce référendum. Rien que ça, le fait d'organiser le référendum sur un sujet que Macron considère comme un sujet terminé, dont on ne parle plus, ce serait déjà un échec politique pour lui. Donc il faut le prendre comme ça, et puis comme la possibilité d'organiser tranquillement la population, c'est-à-dire elle a une deuxième façon d'exprimer son refus de cette loi. Les sondages d'opinion, c'est une chose, les manifestations, c'en était une autre, et puis il y a une troisième façon d'exprimer son opposition, qui serait celle-là. Ne la négligeons pas. Pour moi, c'est un mode de référendum tout à fait insuffisant, hein, tout à fait cadré avec toute une série de contraintes, mais ça permet de continuer à mobiliser en disant « cette loi, on ne la veut toujours pas ». On la veut d'autant moins, et c'est tout à fait justifié, que cette loi n'empêche en rien la sécurité sociale de fonctionner dans l'année 2023, ni même dans l'année 2024. Là-dessus, je reviens aussi là-dessus. La loi qui a été votée, donc, puisqu'elle a été votée par le Parlement, bon, admettons, cette loi engage les finances de la sécurité sociale sur une décennie entière. C'est-à-dire que la sécurité sociale va fonctionner tout à fait normalement. Pendant les 9 mois où les pro-référendums recueilleront des signatures, il n'y aura aucun problème de fonctionnement pour la sécurité sociale, et même, ni même l'année prochaine. Hein. Cette loi ne s'applique pas aujourd'hui. Elle est là comme une espèce de menace, une épée de Damoclès en disant « je vais vous planter 64 ans dans le cou ». C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire rien d'autre. Hein. Mais, donc c'est pas tout de suite, c'est pas, il y aura toute une série de délais. Oui, vas-y Roselyne, oui, bonjour.
Bonjour, surtout qu'il faut le décret d'application.
Oui. Oui, alors ça, c'est pas trop difficile. C'est
non, mais je veux dire, ça va être fait rapidement, tu crois ?
Oui, mais même, oui, mais décret d'application dans la mesure où ça n'a pas d'effet. C'est pour ça que j'insiste là sur le fonctionnement concret de la sécurité sociale. Bon, ça c'est très, très secondaire. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Il y a encore une possibilité de mobiliser très largement la population, au-delà des cercles très militants qui continuent à s'opposer à la législation, au-delà des forces syndicales qui continuent à manifester, ça sera le cas jeudi, il y a une possibilité de continuer à élargir et à continuer à ce que ce mouvement large de refus de cette loi soit populaire et le reste. Et que l'on puisse dire « je ne veux pas de cette loi et je ne vais pas risquer ma vie à prendre un flashball dans la figure hein ». C'est ça qui est très très important. Alors, vous voyez ce que le chemin est étroit. Il ne reste plus que ça pour pouvoir s'opposer sans risquer d'être matraqué, maltraité, tabassé, etc. Il ne reste plus que ça. C'est-à-dire, c'est bien montré que cette porte très étroite du référendum d'initiative partagée est tout ce qui reste de démocratie. Après, il n'y a plus que le rapport de force. Il faut être bien conscient de ça. C'est pour ça que je ne néglige pas, tout en insistant sur le fait que ce n'est pas comme ça un vrai référendum d'initiative populaire. C'est le peuple qui décide quand il est suffisamment nombreux. C'est lui qui organise et c'est lui dont le choix est respecté par le gouvernement. On n'en est pas là. On n'en est pas au Venezuela. C'est autre chose. Mais je voulais faire le point là-dessus très clairement pour que, d'une part, ceux qui n'ont pas envie, et il y en aura forcément, de dire « Ah oui, mais maintenant, si on va manifester contre cette loi, on va trouver en face les gaz lacrymogènes, les matraques, etc. » Et donc, forcément, ça diminue le nombre d'amateurs, si j'ose dire, évidemment. Hein. Et en face, on a affaire à un corps de police qui est au service du pouvoir et qui est là pour faire peur et pour faire mal. Donc il faut intégrer ça et dire ce cette petite lueur de démocratie qui reste encore vivante, faisons-la vivre, c'est très intéressant. C'est très intéressant, ça montrera une vraie détermination et ça montrera que si jamais ce petit rayon de démocratie n'existe plus, nous sommes sortis de la démocratie. C'est-à-dire on a un pouvoir qui passe de toute façon en force et qui tape sur tout ce qui n'est pas d'accord. Voilà. Alors, vous voyez, c'est toute l'année 2023. La sécurité sociale, rassurez-vous, j'insiste, va fonctionner normalement. L'année prochaine aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Simplement, l'épée de Damoclès, elle est là. Elle est là, et si nous ne lui opposons pas, elle tombera dans notre cou. Vous savez, l'épée de Damoclès, ça se passe entre les deux dernières vertèbres, là, au bas du cou. Hein. C'est comme ça qu'on exécute, pour ceux qui voient des corridas ou qui en ont vu, c'est comme ça qu'on finit le taureau, hein, entre les deux dernières vertèbres cervicales. Bon, réjouissons-nous, on n'en est pas tout à fait là. Et je suis content de retrouver donc Habib qui va nous raconter ses pérégrinations, puisqu'il s'est occupé, on en avait parlé avant qu'il s'en aille, de la solidarité humanitaire avec la population syrienne en souffrance. Voilà.
Voilà. Je salue tout le monde, bien sûr. Et puis, bon, pendant au moins une vingtaine de jours depuis le 6 février, jusqu'à ces jours, nous avons collecté des dons pour les sinistrés syriens. Et nous avons ramassé quand même une somme assez importante. Nous remercions tout le monde. Et puis voilà, je vais vous lire cette lettre. Donc cette somme d'argent, bien sûr, on l'a déposée à Paris. Nous avons déposé cet argent à avec un fonctionnaire d'État syrien pour que cet argent ne soit pas
détourné.
Oui, oui. Exactement comme certains qui ont donné des dons, mais la plupart ont été détournés. Alors, l'ambassade de la Syrie, bien sûr, j'ai été très bien accueilli et je les remercie beaucoup, d'une part, et d'autre part, donc je vais vous lire la lettre de l'ambassade de la République arabe syrienne à Paris. Monsieur Habib Turki, président de l'Association de solidarité et d'aide franco-syrienne. L'ambassade de la République arabe syrienne en France apprécie vivement les efforts que vous avez déployés pour collecter des dons afin de soutenir nos frères syriens touchés par le séisme qui a frappé notre patrie, la Syrie, à l'aube du 6/2/2023. Aussi, vous remercie pour votre élan patriotique sincère afin de soutenir nos frères touchés dans des circonstances tragiques qu'ils traversent. L'ambassade de la République arabe syrienne remercie également tous ceux qui ont participé à la campagne des dons par le biais de votre association. Une participation qui prouve que la présence des Syriens dans les pays d'expatriés ne les empêche pas de ressentir la douleur de leur pays et que la Syrie a des amis fidèles qui n'hésitent pas à participer au soulagement de ces douleurs autant que possible. Voilà. Après, veillez à griller. C'est... Alors, la personne qui est fonctionnaire d'État de la République arabe syrienne, c'est M. Mohamed Aboudallah, chargé d'affaires.
Voilà. Alors, en fait, ça veut dire simplement, je précise que donc, les relations diplomatiques entre la France et la République arabe syrienne sont suspendues, mais qu'il y a quand même un fonctionnaire d'État en poste à Paris, ne serait-ce que pour garder des contacts avec justement les expatriés syriens. Il faut savoir, je le note parce que c'est assez rare, que le ministère des Affaires étrangères de la République arabe syrienne s'appelle ministre des Affaires étrangères et des expatriés. Donc il a un souci permanent des populations qui sont nombreuses en Amérique latine, en France, aux États-Unis, en Canada, etc. Donc ce ministère est chargé de maintenir le lien avec la communauté syrienne expatriée.
On m'avait dit qu'environ les expatriés de la Syrie sont environ autour de 14-15 millions de Syriens.
Voilà, oui. Voilà les échelles.
Surtout l'Amérique latine.
Beaucoup l'Amérique latine. Ouais. Aussi un peu en Afrique aussi. Enfin, il y en a un peu partout.
Partout, ouais, dans le monde entier, c'est vrai.
Alors j'en profite pour dire qu'on reviendra sur ce sujet des expatriés syriens, puisque le mois prochain, pour notre émission mensuelle, on recevra donc une historienne d'Aix-en-Provence, une historienne qui a fait un livre qui est très intéressant, qui s'appelle « En transit ». Elle s'appelle Céline Renard, qui explique, alors sur une période petite de l'histoire, c'est-à-dire entre en gros 1840 et 1914, le début de la Première Guerre mondiale, 400 000 Syriens ont quitté leur pays pour partir un peu n'importe où. Alors certains sont arrêtés à Marseille, d'autres ont continué leur périple, et c'est un des moments où il y a eu beaucoup de départs syriens. Alors ça a été favorisé, elle l'expliquera, mais c'est intéressant de le souligner, par le fait que jusqu'en 1914, les États-Unis ouvrent grandes leurs portes à toutes les immigrations. Ah. C'est-à-dire qu'il est très facile d'être accueilli sur le territoire des États-Unis. Ce qui, ça, après, a beaucoup changé après la
surtout
Deuxième
Guerre. Surtout pas maintenant.
Ah, voilà, surtout pas maintenant. Hein, mais à l'époque, c'était facile. La difficulté venait, mais j'anticipe un peu sur l'émission, du fait que la Syrie faisait partie, était une vilaya de l'Empire ottoman, donc une province de l'Empire ottoman, et que, en droit, l'Empire ottoman interdisait à ses sujets de s'expatrier. Bon, ben, ils fuyaient, donc, mais il y en a beaucoup qui ont fui. Voilà. Mais on y reviendra, donc ce sera le mercredi 12 au soir, 12 avril. Bien, voilà pour la Syrie. C'est peut-être le moment d'ailleurs de continuer sur des aspects de la situation internationale qui touchent directement la Syrie, puis on élargira un peu le champ de nos observations, puisque d'une part, on l'avait signalé la semaine dernière, donc le président syrien Bachar el-Assad, entouré de la plupart de ses grands ministres, de ses ministères les plus importants, finance, économie, défense nationale et tout, a été accueilli à Moscou par le président russe et par le gouvernement russe. Et donc, ils ont préparé les suites de la guerre. parce qu'il faut appeler ça comme ça, hein, c'est-à-dire qu'ils ont préparé le moment où, effectivement, la Syrie va pouvoir sortir des zones de combat, ce qui veut dire qu'il faudra arrêter qu'il y ait des armements et des conseillers, voire des soldats des États-Unis d'Amérique, qui utilisent le sol syrien pour aider, fabriquer, former, armer des milices qui... pour la plupart, sont des milices kurdes. Je le regrette pour la population kurde, parce que la population kurde, dans cette affaire-là, enfin, ces populations organisées et militantes à leur façon, sont tombées tout à fait dans les mains des intérêts des États-Unis. Bon, ça, c'est en train de disparaître. Alors, je le regrette, parce qu'il y a eu certainement là-dedans des gens de bonne volonté qui voulaient du bien pour leur peuple kurde, mais en fait, à se tromper de camp... on finit par ne pas avancer dans ses objectifs. C'est triste à dire, mais c'est hélas la conclusion qu'il faut en tirer.
Et surtout, il y a actuellement, on entraîne aussi le peu de Daesh qui reste.
Tout à fait. Et ce qui reste, effectivement, voilà. Hein, puisque là encore, le peu des groupes djihadistes sont encore soutenus. Bon. Donc ça, c'est ce qui est en train de s'en aller, du fait que, on va revenir au sujet plus large, c'est-à-dire qu'il y a un changement général des positions politiques de tous les pays de la région, et ce genre d'intervention, et ce genre d'intervention très négative, très mortifère des États-Unis, de leurs services de renseignement, de leurs forces spéciales et tout, va nécessairement diminuer. Alors ils ne se laisseront pas faire, ils ne partiront pas facilement, mais ils n'ont plus beaucoup d'appui. Il ne reste plus qu'une espèce de camp isolé, les États-Unis tirant des ficelles, avec Israël qui est encore là, mais en crise politique en même temps, pour être le dernier outil du désordre général dans ce que j'appelle, et je vais l'appeler de plus en plus souvent, l'Asie de l'Ouest. Il s'agit bien de changer à la fois de vocabulaire et de vision du monde. Il ne s'agit plus du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, c'est-à-dire une vision depuis chez nous, l'Europe, vers l'Est. Il s'agit bien d'une vision du continent eurasiatique. Et pour les eurasiatiques, pour les Chinois, pour les Indiens, la zone Syrie, Liban, Égypte, Arabie Saoudite, tout ça, c'est l'Asie de l'Ouest. Mettons-nous, et c'est la vérité des cartes, je veux dire. C'est jamais autre chose que l'extrémité ouest du continent eurasien. Bon. Donc on est en train de changer à la fois de vocabulaire et de regard sur le monde. C'est-à-dire c'est le nôtre qui maintenant est dépassé, et c'est un nouveau regard qui est en train de se mettre en place. Voilà, donc après la visite donc très importante du président donc syrien à Moscou, il s'est enchaîné presque tout de suite après une deuxième visite tout à fait importante aussi, puisque il a été reçu, lui et son épouse, par le prince Ben Zayed, donc dans les Émirats arabes unis, à Dubaï, où là aussi il a été question, effectivement, d'aider la Syrie à se reconstruire, d'aider les réfugiés à rentrer. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs millions, donc il faut trouver des endroits pour les loger, il faut trouver des endroits pour les nourrir, etc. Bon, tout ça est prévu, et ça vient, c'est une parole qui engage un pays qui a de l'argent. Hein, j'insiste pas assez, mais enfin on le sait, les Émirats arabes unis ont beaucoup d'argent, une petite population, et de gros moyens.
Et tout particulièrement, surtout, les accords qu'il y a eu entre l'Iran et l'Arabie saoudite par l'intermédiaire de la Chine. Voilà. Et ça, c'est très, très important.
Voilà. Puisqu'au fond, on revient à la source, c'est-à-dire que cette visite donc, du président Bachar el-Assad à Dubaï s'inscrit dans le cadre des relations en cours de transformation assez radicale qui se fait sous nos yeux et en l'espace de quelques semaines. Il faut voir la rapidité de l'histoire, hein, qui consiste à dire, on l'a dit, mais on va revenir dessus, c'est-à-dire que désormais, il n'y a plus de possibilité pour les États-Unis et pour Israël de susciter des guerres entre les grandes puissances de cette région-là. Puisqu'elles sont d'accord et qu'elles se rendent compte que le président iranien va être reçu à Riyad. Et donc ça permet en même temps d'éviter et de sortir d'un discours qui nous a été vendu depuis maintenant quasiment 20 ans, je vais revenir sur l'Irak un peu plus tard, consistant à dire quand un chiite rencontre un sunnite, qu'est-ce qui se fait ? Il s'entretue. Ouais. Bon, ben c'est fini. C'est en train d'être fini. Il ne reste, alors, c'est assez notable quand même pour être remarqué, c'est que le seul pays de cette région-là qui n'est pas trop fier de sa position et qui ne sait pas trop quoi dire s'appelle l'Émirat du Qatar. Pourquoi le Qatar ? Parce que le Qatar a été le point de financement et d'organisation et de regroupement des frères musulmans, qui était le groupe musulman donc, qui était chargé, par, enfin chargé, qui a été utilisé par les États-Unis, en particulier par Obama et son équipe, pour continuer à diviser l'Asie de l'Ouest. Alors, ils ont réussi un peu, ils ont réussi à faire tomber Moubarak, ils ont réussi... Bon, mais c'était ça le rôle du Qatar, un rôle financier important, une base arrière donc, des frères musulmans qui, on le sait, je repense à la Syrie et tu le sais mieux que tout le monde, les frères musulmans ont depuis très très longtemps, depuis que Hafez el-Assad est arrivé au pouvoir, ont tout fait pour essayer de renverser le régime syrien pour prendre la place, n'ont jamais réussi, mais ils avaient réussi dans d'autres endroits. Et on sait aussi que le parti de Erdogan, en Turquie, est un parti proche des frères musulmans. Donc là, on a une redistribution des cartes et effectivement, il faut souligner, je reviens là-dessus, les divisions religieuses dont les soi-disant spécialistes européens, français en particulier, de l'histoire de cette région-là du monde, nous ont rebattu les oreilles en disant « De toute façon, les chiites et les sunnites ne se réconcilieront jamais, ils passeront leur vie à s'entretuer. Hein, » et sous-entendu, on les aidera à s'entretuer autant que possible en les montant les uns contre les autres. Ce discours-là est en train de mourir. Voilà, c'est ça, c'est très, très important parce que c'est un changement total du panorama.
D'ailleurs, visite entre la Turquie et l'Égypte actuellement.
Tout à fait.
Donc il y a un rapprochement et on
tout
sait.
À fait. Alors c'est cocasse parce que c'est la suite de ce que je disais. Il faut savoir que le président Al-Sisi, qui est au pouvoir aujourd'hui et d'Égypte, il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il faut appeler les choses par leur nom. Il a renversé le gouvernement Morsi, qui était un gouvernement des frères musulmans. Ouais. Donc a priori, il les aimait pas. Il savait très bien à qui obéissaient les frères musulmans et quels étaient leurs intérêts. Les frères musulmans, c'est une bourgeoisie traditionnelle réactionnaire. C'est pas un islam de progrès, pas du tout, du tout. C'est une bourgeoisie réactionnaire, mais qui avait été mise en selle par Obama et sa politique.
Et sa politique, quoi. Voilà.
Donc c'est très très bien, ce qui veut dire que si Erdogan, qui a été proche, mais Erdogan on sait que c'est un monsieur qui fait beaucoup de sinuosité, qui a été proche, et lui et son parti des frères musulmans, s'il accepte de discuter avec l'Égypte, s'il accepte effectivement de faciliter la reconstruction et le retour des réfugiés syriens, ça veut dire qu'il sent que le vent ne tourne pas dans son sens à lui. Alors je lui fais confiance, parce que sa capacité à tourner au vent me paraît très très importante, et donc il s'adaptera à la situation. Mais la situation est tout à fait nouvelle. Bon. Ouais. C'est la chose qu'il fallait souligner. Alors voilà, on a parlé de la Syrie. Maintenant, au niveau un peu plus élevé, montons d'un cran, tout ça a été possible à la suite du coup d'éclat, on ne peut pas appeler ça autrement, de la diplomatie chinoise qui a eu lieu donc il y a peu de temps, c'est 15 jours maintenant, c'est énorme, c'est-à-dire que la diplomatie chinoise, après, on imagine des mois d'efforts, des mois de conciliabule de préparation, a réussi à Pékin à faire signer donc un accord de rétablissement des relations diplomatiques entre la République islamique d'Iran et le Royaume d'Arabie saoudite, qui étaient en fond les deux points forts de cette espèce de lutte qu'on nous avait fabriquée entre les chiites et les sunnites. Bon, ça c'est terminé. C'est terminé. Et donc, autour de ça, autour des deux gros nos poids lourds, puisque l'Iran est un poids lourd à sa façon économique, pétrolière, et l'Arabie saoudite aussi, surtout du point de vue pétrolier et financier, si les deux gros poids lourds se mettent à travailler ensemble, le reste de la région change complètement de couleur et s'organise très, très différemment. C'est ça qui se passe en ce moment. Alors cet accord donc, entre les deux grands de la région, de l'Asie de l'Ouest, va se concrétiser très très vite puisque le président iranien est invité à Riyad et il va donc se rendre en Arabie saoudite, je crois, à la fin de la semaine. Voilà. Ça veut dire que les choses vont vite, les choses étaient mûres. C'est pas simplement « Ah, tout d'un coup, le monde a changé, il faut qu'on s'adapte ». Les choses étaient mûres, il a suffi, mais c'est énorme. Du point de vue de l'histoire en général, avec un grand âge, il a suffi que la Chine dise maintenant ça suffit. Hein. L'important, c'est que tous les pays puissent trouver leur voie de développement et qu'il n'y ait pas un pays, un seul, qui met le désordre partout. C'est ça.
Plus important encore.
Oui, vas-y.
Actuellement, la Chine, je pense qu'elle va essayer aussi de trouver un règlement de paix entre l'Ukraine et la Russie.
Alors,
c'est en voie.
C'est pas impossible, parce qu'effectivement, donc, on sait, on arrive l'actualité la plus fraîche, puisque vous savez que depuis hier jusqu'à demain, donc, le président chinois est à Moscou, où il est venu. Et là, alors, je m'arrête sur la déclaration qui est passée donc, dans un grand quotidien russe qui lui a demandé « Pourquoi vous êtes venu ?» Et il a dit tout simplement « Je suis venu pour renforcer notre alliance ».
Oui.
Alors, et ceux qui ne sont pas contents, qu'ils aillent se rhabiller, c'est ça que ça veut dire. Hein. Ouais. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout question qu'on se fâche, que je donne des conseils sur la façon de mener la guerre en Ukraine, etc. Non, on est là, on travaille ensemble, on va continuer à travailler ensemble. Et effectivement, on veut que la guerre s'arrête. Mais alors là, je donne tout de suite la réponse des États-Unis. La réponse des États-Unis, elle est très très claire, dans la bouche de Sullivan, le conseiller à la sécurité de Biden, qui dit... Il est exclu que nous acceptions toute proposition de paix. Alors, à la fois, bon, ils sont tels qu'ils sont, mais en même temps, c'est passionnant, parce qu'en fond, M. Zelensky, ouvrez vos oreilles. Hein. Le patron a décidé que vous ne deviez pas négocier. Hein. Ah, alors ça, c'est grave. Alors, M. Zelensky, qui pensait, demande des avions, des chars, etc., si le patron lui dit, on négocie pas, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, ce qu'il va faire, il va se dire... si je négocie, qu'est-ce qui m'arrive? Ben on sait ce qui va lui arriver. Le pauvre, il doit le savoir mieux que nous. C'est-à-dire, comme il est entouré de tueurs fous, ben il va mourir. Hein. Alors, peut-être il a un goût pour la vie, ce monsieur. Bon, il n'est pas très respectable. C'est un voyou, c'est un oligarque. Enfin, c'est très, très enrichi. Un trafiquant financier, fiscal. Bon, aucun intérêt. Zelensky, mais il a reçu, enfin, il est très clair, les États-Unis viennent d'afficher le fait qu'ils interdisent un règlement de paix. Donc les États-Unis s'affichent à la face du monde comme le pays qui veut la guerre partout, tout le temps.
Exactement.
Voilà. C'est parfaitement clair, là. C'est limpide. Et le pauvre Zelensky, j'ai aucune pitié pour le personnage, mais il a les règles du jeu qui sont fixées. Du côté du patron, de son patron, de celui qui tire les ficelles, on lui a dit il ne faut pas négocier. Et puis il voit bien de toute façon que la guerre, il n'y arrive pas, malgré les promesses de ci et de ça. Alors je ne reviens pas sur les F-16 qui vont mettre 2 ans à arriver, les chars qui n'arrivent pas, etc. Bon, ils n'en peuvent plus, ils perdent tout ce qu'ils veulent perdre, et donc la mécanique guerrière de la Russie continue à fonctionner, et elle va continuer à fonctionner aussi longtemps que nécessaire, tant que les États-Unis ne diront pas à M. Zelensky, on arrête. Hein. C'est-à-dire, nous arrêtons, donc tu nous suis. Pour l'instant, c'est exactement l'inverse. On accepte des conseils de personne. Nous, ça fait, alors, depuis 1945 jusqu'à maintenant, ça fait un demi-siècle qu'on fait la guerre tout le temps, où on veut comme on veut. Pourquoi on arrêterait? Hein. Ben, vous allez arrêter parce que c'est le moment d'arrêter, que maintenant, vous avez des gens qui s'opposent à votre politique et qui sont de plus en plus nombreux, l'Arabie Saoudite, l'Iran, qui sont très divers, des pays africains, même l'Inde se pose des questions. Bon, tout ça fait que la page se tourne très, 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 très vite.
Voilà.
Bien. Alors, ça, donc, résumons la visite du président chinois à Moscou. C'est une visite absolument décisive, mais pour laquelle ceux qui rêvaient en disant « ils vont se fâcher, Xi Jinping va tirer les oreilles à Vladimir Poutine et tout », c'est pas du tout ça. Les discours de l'un et de l'autre... Alors, le président chinois a été interviewé dans la presse russe dans le même temps où Vladimir Poutine était interviewé par la presse chinoise. Hein. Et donc, c'est tout à fait clair. Ils sont d'accord et ils savent que, de toute façon, s'ils n'étaient pas d'accord, c'est... le fauteur de troubles mondial qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, qui gagnerait. Donc comme ils ne veulent pas qu'ils gagnent, comme ils veulent respirer, qu'ils veulent être tranquilles sur cette terre, eh bien ils se mettent d'accord et ils vont rester d'accord le plus longtemps possible. Et puis ça commence à porter des fruits réels. C'est-à-dire à partir du moment, par exemple, je ne l'ai pas dit, mais où l'Arabie Saoudite et l'Iran s'entendent, le cessez-le-feu qui depuis 2022 existe en Yémen va se transformer en un accord quelconque de paix, d'organisation, hein, entre les outils qui ne veulent pas du gouvernement d'Aden, et donc il va falloir trouver une solution. Mais de toute façon, on va arrêter de s'entretuer.
C'est en bonne voie.
Voilà, oui. C'est en bonne voie aussi. C'est ça qui bouge. On le verra. Alors, ce qui reste, le dernier espoir, c'est qu'effectivement, ce soit la Libye qui devienne un endroit vivable et gouvernable, puisque pour l'instant, si ça n'allait pas, c'est qu'effectivement, on avait d'un côté le Qatar, de l'autre côté les Émirats Arabes Unis, enfin, toute une série d'intervenants et la Turquie qui semait le désordre avec des armes, etc., en permanence. Dès l'instant où tous les pays qui donnaient des armes aux différents groupes sur le sol libyen arrêtent de le faire et disent maintenant, il faut mettre en place un gouvernement d'union nationale, la Libye, ça existe, ça a des frontières, il faut qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait un pouvoir, le ton change et la situation change largement. Bon. c'est le cas le plus flagrant. Donc la Syrie, j'en ai parlé. La Libye, c'est flagrant. La Somalie aussi, d'une certaine façon. Ouais. Le Yémen. Donc on a tout cet ensemble de pays où les désordres organisés systématiquement par les États-Unis avec le soutien d'Israël le plus souvent...
Il y a des désordres actuellement.
Voilà. ne peuvent plus fonctionner, d'autant plus qu'effectivement, Israël est dans une situation politique délicate. Bien. Voilà ce que je voulais dire. On va peut-être faire une petite pause musicale. Ouais. Alors, tu sais, le deuxième morceau, c'est donc le Ladysmith Black Mamba Zoo. C'est un hymne à la liberté chanté par un groupe donc, sud-africain. C'est un peu ancien, mais c'est le bon moment pour parler de la libération des Africains, des influences néfastes et de la division organisée par les États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas, tu as trouvé ?
Goody boy, carry on. Goody boy, carry on.
Warm shop and a castle yaman.
Warm shop, puma, a castle yaman. Warm shop, a castle yaman. Well done. You did a good job. Properly performed. Well done. Carry on.
Warm shop. Now I the castle room shop.
Warm shop. Puma, the castle room shop.
Warm shop, Emma, too.
Warm shop. Puma, the castle room shop. Don't do it again. We came a long way to take over. Do you understand that? Step by step. There comes the day we were all praying for.
Oh, yes.
Early in the morning, it was early on Friday morning, Norway in Oslo, 1993.
When two men,
all the way from South Africa, Mandela, de Klerk, accepted their Nobel Peace Prize. Congratulations, South Africa.
At last.
You reached democratic election. Long way to freedom. Long way to freedom. Long way.
Congratulations, South Africa.
Long walk to freedom.
I.
compris que c'était une chanson donc, qui a été chantée avant la fin de l'apartheid, mais qui annonçait sa fin future. Donc, hein, longue route, la longue marche vers la liberté.
Voilà.
Et ils y sont arrivés et ils sont aujourd'hui membres des BRICS, seul pays africain membre des BRICS, avec le Brésil, donc la Russie, l'Inde et la Chine. En attendant les nouveaux, on dit que l'Algérie signerait, rentrerait dans les BRICS d'ici la fin de l'année 2023. Donc c'est presque fait. C'est presque fait. Ça, c'est un élément très, très important pour la suite des événements sur le continent africain. Et puis, je voudrais parler d'un sujet qui va enchanter Roselyne, parler de la Cour pénale internationale. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que effectivement, j'imagine, enfin j'ai compris que vu le niveau de propagande à laquelle sont arrivés les médias occidentaux, tout le monde a repris Poutine et interpellé, inculpé par la Commission pénale internationale, alors pour un motif complètement absurde, puisqu'il s'agit de trafic d'enfants. Alors il faut savoir, j'insiste quand même pour bien faire comprendre, quand depuis 2014, le gouvernement de Kiev bombarde systématiquement les provinces du Donbass, hein, Lugansk et Donetsk, et donc il bombarde indifféremment les écoles, les hôpitaux, les quartiers d'habitation, la première réaction des populations, des familles et des pouvoirs locaux qui étaient là, ça a été de demander à la Russie d'accueillir des enfants pour qu'ils ne soient pas tués en allant à l'école. C'est tout. Donc la Russie a sauvé des dizaines de milliers d'enfants du Donbass. C'est tout. Alors, transformer ça en accusation de trafic d'enfants, c'est d'un ridicule achevé. Et j'ai honte pour les journalistes qui reproduisent ce genre d'accusations telles que... Alors, j'avais déjà honte pour la Cour pénale internationale, ça on peut en reparler, mais pour les journalistes qui ne prennent pas 30 secondes pour réfléchir, j'ose dire ça, mais ça rime à quoi dire. Monsieur, alors, c'est le loup-garou, c'est l'homme au couteau entre les dents, c'est le mangeur d'enfants, mais on est à un niveau de bêtise, d'infantilisation des opinions occidentales, catastrophique. Mais comme on a voulu cacher que depuis 2014, depuis 8 ans, le gouvernement de Kiev bombardait son propre peuple dans ces deux provinces, effectivement, maintenant, on dit des bêtises. Oui, Roselyne, tu voulais dire un mot.
Oui, j'ai lu ce matin que Poutine avait ouvert une enquête contre le procureur de la CPI et trois des juges.
Voilà, ou même 5 des juges, voilà, tout à fait. Voilà. Alors, le nouveau procureur de la CPI, donc, qui est un citoyen britannique, un magistrat britannique, M. Khan, qui est en poste depuis 2 ans, je crois, qui a remplacé Fatou Bensouda, qu'on connaissait bien, la Gambienne Fatou Bensouda, à ce poste. Donc, la riposte de la Russie est simple, en disant ben, « Vous jouez à ça, ben, nous, on va effectivement... » Et je pense qu'ils ont des dossiers, parce que la Russie a envoyé des observateurs à la Cour pénale internationale, donc ils savent très bien comment ça fonctionne, qui est qui, à qui ça obéit, etc. Il faut savoir que, et c'est là qu'il faut en arriver, c'est que la Cour pénale internationale n'est concernée que par les signataires de l'accord dit de Rome, qui a fondé la Cour pénale internationale. Alors rappelons quand même un peu les faits. La Cour pénale internationale est une invention d'un certain Bill Clinton qui a voulu imposer un mécanisme judiciaire de ce type-là pour dire effectivement il y a toute une série de conflits dont on évitera qu'ils se finissent par les armes, on accusera tel ou tel chef d'État d'avoir tiré sur sa population, on le mettra en prison et on n'en parlera plus. Effectivement, c'était assez économique, j'allais dire entre guillemets, pour faire taire un certain nombre de conflits et un certain nombre d'ambitions de petits chefs ici et là dans différents coins, en particulier d'Afrique, puisque pratiquement le réseau, le tableau de chasse de la Cour pénale internationale s'est limité uniquement à l'Afrique. Bon, c'était plus facile parce que là, il y avait des petits pays, des conflits compliqués, et on disait, allez, on met le chef d'État en prison et ça, tout s'arrête. Bon, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Mais voilà à quoi servait la CPI. Mais la CPI n'applique ses jugements et ses condamnations éventuelles qu'aux pays qui ont signé le traité de Rome, le statut de Rome. Ne sont membres, n'ont pas signé le statut de Rome, ni les États-Unis d'Amérique qui l'ont rédigé eux-mêmes, c'est-à-dire un organe de simple police en disant « mais moi je suis en-dessus de ça, moi je décide de qui je mets au commissariat, qui je mets en tôle, en gros, c'est ça, mais moi il n'est pas question que j'y aille », ni la Russie, ni la Chine, ni l'Inde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a plus des 3/4 de la population mondiale qui n'est pas soumis à l'autorité de la Cour pénale internationale. Et aussi bien, cette dernière aventure, cette dernière bêtise, j'allais dire, est peut-être le signal de la fin de la Cour pénale internationale qui décidément n'aura pas été brillante. Et j'en profite quand même, je le dis, pour saluer le courage exemplaire du président Laurent Gbagbo, qui par sa persévérance, par la qualité de sa défense, a tenu des années tout contre cette cour pénale pour montrer qu'elle ne servait à rien et qu'elle accusait à tort un personnage innocent. Il a contribué, par sa résistance exceptionnelle, à affaiblir cette espèce de juridiction qui est une sorte de... C'est un commissaire de police organisé par Washington et financé par les Européens. C'est rien d'autre que ça. Et là, ça éclate, puisqu'on dit effectivement, inculper Poutine pour ça, c'est une stupidité achevée, mais hélas, stupidité partagée par tous les quotidiens mainstream, comme on dit, qui reproduisent ça sans réfléchir deux secondes. Bon, je pense qu'effectivement, c'est peut-être la fin de la Cour pénale internationale qui n'est plus présentable si elle se livre à ce genre d'activité. Mais ça montre bien que le système Clinton, il faut voir quand il arrive dans l'histoire contemporaine, il arrive au moment où l'URSS a disparu. Et donc les États-Unis se disent, bon, maintenant on va essayer de faire régner l'ordre un peu partout, avec un minimum d'engagement militaire. Si on peut régler toute une série de conflits, enlever un chef d'État qui ne nous obéit pas, mettre un autre à la place et tout, en utilisant ce petit jouet qu'on a fabriqué, c'est très bien. Mais nous, nous sommes bien au-dessus de là. On a fabriqué le statut de la CPI, mais on n'y est pas soumis. Personne n'est soumis, enfin, aucune grande puissance n'est soumise à la CPI, et les États-Unis, moins que tout le monde, puisque eux sont au-dessus de toutes les lois mondiales et voudraient continuer à y rester. Voilà. À propos d'être au-dessus de toutes les lois mondiales, on ne peut pas ne pas parler aujourd'hui du 20e anniversaire de la guerre d'Irak.
Oui.
C'était donc en mars 2003, il y a 20 ans. Et après des mois et des mois de fabrication, de manipulation de l'opinion, les armes de destruction massive de Saddam Hussein, etc., après, malgré, j'allais dire, une campagne internationale contre la guerre qui s'est développée dans le monde entier pendant au moins 6 mois, de mi-2002 jusqu'au moment du bombardement de l'attaque elle-même, en mars 2003, il y a eu une opposition, il y a un mouvement anti-guerre, on l'a appelé comme ça, qui ne s'est pas reconstruit depuis, hélas, hein, mais qui a été qui a été fort, parce qu'une série de puissances ne voulait pas participer à ce jeu parce qu'elles en connaissaient les faiblesses et elles connaissaient les mensonges qu'il alimentait. En particulier la France, je m'arrête là-dessus puisque ça, quand même, ça nous concerne. Il faut savoir et se souvenir que dans la mesure où les États-Unis et la Grande-Bretagne qui étaient derrière ont décidé de toute façon de détruire et de faire tomber le régime de Saddam Hussein et de détruire l'Irak tel qu'il était, la France est donc de passer en dehors du Conseil de sécurité qui de toute façon s'y opposait. Et la France s'est signalée, c'est le fameux discours de Dominique de Villepin à l'ONU, qui a mis les États-Unis dans un état de fureur extrême, extrême. C'est-à-dire qu'ils étaient fous que quelqu'un qui doit être soumis, parce que c'est ça, la fureur des États-Unis s'expliquait par le fait qu'on ne comprend pas que notre allié, la France, ne nous obéisse pas. Il y a une rébellion, une crise d'adolescence, on aurait dû dire, voilà. Mais ils acceptent, qu'est-ce que ça veut dire? Donc une espèce de furie, mais cette furie a eu des suites, puisque donc M. Dominique de Villepin, qui à l'époque était Premier ministre et qui aurait pu, et on sentait que c'était bien son ambition, remplacer le président Chirac en 2005, hein, pour l'élection présidentielle qui a suivi, M. Dominique de Villepin a vu sa carrière politique sabotée clairement par un agent des États-Unis qui s'appelle Nicolas Sarkozy. La montée et l'arrivée au pouvoir de Sarkozy est une opération montée aux États-Unis pour éviter que de Villepin, cet homme qu'il fallait abattre, fût-il de droite, ça n'a pas d'importance, il n'était pas dans les mains des Américains. Et donc il fallait trouver l'homme des Américains. L'homme des Américains, c'était Sarkozy. Et on l'a vu en particulier en Libye, on l'a vu en Syrie, il était bien l'homme des Américains et il le restera devant l'histoire et aux yeux, j'espère, de tous les Français conscients. Bon. Et tout a été fait pour ça. Bon. Et donc Sarkozy est arrivé en 2007 et Villepin ne s'est pas présenté parce que les États-Unis ne voulaient pas de lui. On en est là. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que depuis cette date-là, c'est les États-Unis qui sélectionnent les candidats à la présidence de la République française. On n'entre pas aujourd'hui à l'Élysée si on n'a pas le feu vert de la Maison-Blanche. Que ce soit clair, c'est vrai pour Hollande, c'est vrai pour Macron. C'est de ça qu'il faut que la France sorte. Pas que des questions de retraite, c'est ça, c'est beaucoup plus grave, c'est-à-dire c'est l'alignement. Alors je reviens sur cette guerre d'Irak. Cette guerre d'Irak, elle faisait suite donc à une première guerre qu'on appelait la guerre du Golfe, qui avait été aussi elle, suscitée par les États-Unis pour affaiblir le pouvoir de Saddam Hussein. Alors Saddam Hussein avait effectivement depuis 1991 vu son pouvoir très réduit puisqu'il ne gouvernait plus que le centre de l'Irak, pas la zone nord qui est la zone une des deux zones pétrolières, ni la zone sud qui est la deuxième zone pétrolière. Donc il manquait de moyens, il avait une zone d'interdiction de survol, c'est-à-dire que l'armée irakienne ne pouvait pas aller sur la totalité du sol irakien, ne pouvait pas aller au nord dans la zone de Kurdes principalement, ne pouvaient pas aller au sud dans la zone de Bassora, donc c'était un pouvoir très, très limité. Mais il survivait comme ça. Et à un moment donné, il a été décidé qu'il fallait l'éliminer du jeu, parce qu'il avait rendu service, c'était très intéressant à un moment, mais il avait fini de rendre des services. Et quel service il avait rendu, j'insiste là-dessus, c'est tout à fait important. Et ça revient à ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire que M. Saddam Hussein a été utilisé dans la guerre chiito-sunnite, hein, pour attaquer l'Iran qui venait de faire sa révolution islamique en 1979, et cet Iran que les États-Unis voulaient faire tomber. Et donc Saddam Hussein, encore qu'il ait eu un régime du point de vue économique progressiste, social, etc., ce qui est vrai aussi, mais il restait un dictateur, mais il a surtout été un outil des États-Unis pour essayer de démolir la révolution iranienne. La révolution iranienne, pourquoi les États-Unis ne l'aimaient pas? Tout simplement parce que c'est les Iraniens qui avaient mis à la porte le dictateur qui s'appelait le Shah, qui était un des dictateurs féroces, avec une police politique épouvantable, qui avait sévi pendant très très longtemps contre le peuple iranien. C'était ça. Bon, donc le rôle historique de Saddam Hussein, vu de Washington, c'était pas ce qu'il pouvait faire en Irak, y compris de bien pour le développement économique et tout, il s'y intéressait, hein, c'était de tuer des Iraniens autant que possible. Bon, en fait, au bout de, ça a duré donc de 80 à 88, les États-Unis se sont aperçus qu'on n'arrivait pas, hein, que les forces étaient, que l'Iran ne s'écroulait pas surtout. Et donc, on a arrêté les frais. Et pour arrêter les frais, il fallait se débarrasser une bonne fois pour toutes de Saddam Hussein, qui avait fini de rendre service.
Et d'ailleurs, la participation surtout à cette guerre entre l'Iran et l'Irak, l'Arabie saoudite,
bien sûr.
Pétrodollar.
Bien sûr, il y avait tout ça derrière.
Et oui, ils étaient derrière tout ça, bien sûr, sous le feu vert des Américains.
Le fameux contre-choc pétrolier vient de cette guerre aussi.
Hein. Oui.
Contre-choc pétrolier qui a fait, je rappelle, les deux chocs pétroliers 73-79 et le contre-choc pétrolier de 86, qui est la conséquence de cette guerre entre puissance régionale et puissance pétrolière. Puisque l'Irak restait malgré tout un producteur, et l'Iran aussi, et les autres aussi. Voilà ce qui explique un peu cette chute de Saddam Hussein. Alors il faut savoir que la chute, j'y reviens là-dessus, a été épouvantable. Alors effectivement, sur le papier, on nous a beaucoup raconté à l'époque que l'Irak avait la troisième armée du monde. Alors c'était pas très très sérieux. Alors en fait, sur le papier, j'ai des chiffres là, il y avait effectivement, au niveau des chars d'assaut par exemple, il y avait 2500 chars d'assaut en Irak, c'est vrai, principalement des fournitures soviétiques, alors que les États-Unis n'ont mis sur le terrain que, en gros, 900 chars d'assaut. Donc là, c'était une infériorité manifeste. Même chose pour les véhicules légers, donc d'infanterie, c'était du simple au double, 1500 pour les Irakiens, 750 pour les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais là où la différence se faisait, c'est qu'en matière d'avions et d'hélicoptères, il y avait du côté états-unien 1800 avions et hélicoptères, il n'y en avait que 400 côté irakien. Et donc la différence est faite là, c'est-à-dire que ce qui s'est passé donc en ce mois de mars 2003, c'est un ravage, une destruction systématique par la voie aérienne de toutes les installations militaires, civiles de la République irakienne. Tout y est passé, le système de rationnement de distribution électrique, le système de distribution de l'eau potable, les systèmes hospitaliers, tout y est passé. Il ne reste rien, ou presque rien, et le pays, depuis 20 ans, ne s'est pas remis de cet épouvantable choc. C'est ça qu'il faut savoir. Et il y a eu des moments absolument épouvantables. Il y a un journaliste français qui était sur place à l'époque, que je le cite parce qu'il s'appelle Jacques-Marie Bourget. Il vient de rappeler ce qu'il a vu à Bagdad ce jour-là. Il était à Bagdad le jour où un avion furtif des États-Unis a lancé une bombe particulière sur un abri souterrain. Il y avait des abris qui étaient prévus en cas de guerre, où on abritait les civils pour pas qu'ils participent au combat. Donc cet abri était à 100 mètres sous la terre. Il n'y avait dedans que des femmes et des enfants. La bombe a pénétré jusqu'à l'abri. Tous ont été brûlés. tous ont été brûlés, et le monsieur dont je vous parle a vu cette scène-là. Il y a un autre, un général irakien, qui dit que l'armée des États-Unis, quand elle est partie, donc une fois que le gros de la casse a été faite, l'armée est rentrée assez facilement sur le territoire irakien, il y a un général irakien qui dit, j'en ai presque la voix coupée, qu'il a vu ses soldats fondre dans les armes chimiques. Fondre. Bon, c'est horrible, je peux plus, j'arrive plus à parler. Quand on entend un chef d'État ou un chef d'État-major, le général Schwarzkopf, qui dit d'un peuple « on va le renvoyer au Moyen-Âge », je hurle. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, je l'ai dit. Voilà. Ouais. Donc, il faut que ça soit bien dans la tête de tout le monde. C'est ça.
Alors que le CPI n'a pas jugé ces gens-là.
Mais bizarrement, non, puisqu'ils n'ont pas signé. Ils craignent rien. Ouais. Bon, voilà. Ouais. Je voulais dire ça. Et je vais terminer sur la conclusion qu'il faut avoir de ça. Qui est la suivante et qui s'inscrit dans la visite du président chinois à Moscou. C'est que le ministère des Affaires étrangères chinois a publié un document très synthétique où il explique ce que c'est que l'hégémonie des États-Unis. Et je vous en recommande les lectures. Il n'y a pas de version française encore, mais il décrit très précisément, il y a une hégémonie politique, renverser les gouvernements qui ne nous conviennent pas, une hégémonie militaire, hein, des bases partout, des bombes partout, une hégémonie économique, le dollar, le fonds monétaire, la banque mondiale, etc. Une hégémonie technologique, c'est-à-dire je ne veux pas que d'autres pays aient un certain nombre de techniques à leur disposition. On pense en particulier au cas des puces électroniques pour la Chine en ce moment. C'est un dossier sur lequel on pourra revenir. Et enfin, une hégémonie culturelle, c'est-à-dire que les États-Unis écrivent avec Hollywood l'histoire du monde qui est une histoire fausse. C'est l'histoire qu'ils veulent raconter au reste du monde. Ils ont encore cette domination-là. Ce qui est en cause aujourd'hui dans cette alliance stratégique entre la Russie et la Chine, avec leurs alliés dans les BRICS, les alliés dans l'Organisation de coopération de Shanghai, dans laquelle on retrouve l'Inde, le Pakistan, l'Iran, etc., c'est de dire « nous ne voulons plus de cette hégémonie-là ». Personne ne conteste le droit aux 330 millions de citoyens des États-Unis de vivre en paix chez eux. Ce que tout le monde doit contester, c'est la capacité de ces 330 millions de personnes ou de ceux qui les dirigent à faire la loi sur le reste de la planète. C'est cette page qui est en train d'être tournée. Je me réjouis qu'elle le soit et on vous tiendra au courant des évolutions en cours chaque fois que nécessaire. Merci de votre attention. Merci Roselyne.
Merci Rose.
Ya. Diciembre, buena fecha para que arranque. Hoy es primero de diciembre. Hoy arranca la ofensiva.